Conclusion. De l'aliénation contemporaine ou la fin du pacte avec le diable. L'étudiant de Prague. L'étudiant de Prague est un vieux film muet des années 30, film expressionniste de l'école allemande. Il raconte l'histoire d'un étudiant pauvre, mais ambitieux, impatient de mener une vie plus large. Alors qu'il participe à une beuverie dans une guinguette des environs de Prague, se déroule aux alentours une chasse à cours, où la haute société de la ville se distrait comme elle peut. Quelqu'un règne sur cette société et en tire les ficelles. On le voit manœuvrer à son gré le gibier et régler souverainement les évolutions des chasseurs. Cet homme leur ressemble, haute forme, gants, canne à pommeau, assez âgé déjà, un peu de ventre, le petit bouc du début du siècle, c'est le diable. Il s'arrange pour égarer une des femmes de la chasse, rencontre avec l'étudiant, coup de foudre, mais cette femme lui échappe, car elle est riche. Rentré chez lui, l'étudiant remâche son ambition et son insatisfaction qui ont pris un tour sexuel. Le diable apparaît alors dans la chambre minable où il n'y a que des livres et un miroir de hauteur d'homme. Il offre à l'étudiant un morceau d'or en échange de son image dans le miroir. Marché conclu. Le diable détache l'image spéculaire du miroir comme une gravure ou une feuille de papier carbone, l'enroule, l'empoche et se retire, obséquieux et sardonique comme il se doit. Ici commence l'argument réel du film. L'étudiant, grâce à son argent, vole de succès en succès, évitant comme un chat de traverser devant les glaces, dont, malheureusement, s'entoure volontiers la société mondaine où il court. Au début pourtant, il n'a pas trop mauvaise conscience, et il ne lui pèse guère de ne plus se voir. Mais voilà qu'un jour, il s'aperçoit en chair et en os, fréquentant le même monde que lui, s'intéressant visiblement à lui, son double le suit et ne lui laisse plus de repos. Ce double, on le devine, est sa propre image vendue au diable, ressuscitée et remise en circulation par celui-ci. En bonne image qu'elle est, elle reste attachée à son modèle, mais en mauvaise image qu'elle est devenue, ce n'est plus seulement au hasard des miroirs, c'est dans la vie même, partout qu'elle l'accompagne. À chaque instant, elle risque de les compromettre si on les voit ensemble. Quelques petits incidents se sont déjà produits, et s'il fuit la société pour l'éviter, alors c'est elle qui prend sa place et mène ses actions à leur terme, en les défigurant jusqu'au crime. Un jour qu'il s'est attiré un duel, mais s'est résolu à faire des excuses sur le terrain, il arrive à l'aube au rendez-vous, trop tard. Son double est passé avant lui, et l'adversaire est déjà mort. L'étudiant se cache alors. Son image le traque, comme pour se venger d'avoir été vendu. Il la voit partout, elle lui apparaît derrière les tombes, à l'orée du cimetière. Plus de vie sociale, plus d'existence possible pour lui. Dans ce désespoir, il repousse même un amour sincère qui s'offrait à lui et conçoit pour en finir le projet de tuer sa propre image. Celle-ci le poursuit un soir dans sa chambre. Au cours d'une scène violente entre deux, elle se trouve repassée devant le miroir dont elle est sortie. Au ressouvenir de cette première scène, la nostalgie de son image mêlée à la fureur de ce qu'il endure à cause d'elle porte l'étudiant à l'extrême. Il tire sur elle. Bien sûr, le miroir se brise, et le double, redevenu le fantasme qu'il était, se volatilise. Mais en même temps, l'étudiant s'écroule, c'est lui qui meurt. Car en tuant son image, c'est lui-même qu'il tue, puisqu'insensiblement, c'est elle qui est devenue vivante et réelle à sa place. Cependant, dans son agonie, il se saisit d'un des fragments du miroir épars sur le sol, et il s'aperçoit qu'il peut de nouveau se voir. Son corps lui échappe, mais au prix de ce corps, il retrouve son effigie normale, juste avant de mourir. L'image spéculaire représente ici symboliquement le sens de nos actes. Ceci compose autour de nous un monde à notre image. La transparence de notre rapport au monde s'exprime assez bien par le rapport inaltéré de l'individu à son reflet dans une glace. La fidélité de ce reflet témoigne, en quelque sorte, d'une réciprocité réelle entre le monde et nous. Symboliquement donc, si cette image vient à nous manquer, c'est le signe que le monde se fait opaque, que nos actes nous échappent. Nous sommes alors sans perspective sur nous-mêmes. Sans cette caution, il n'y a plus d'identité possible. Je deviens à moi-même un autre. Je suis aliéné. Telle est la donnée première du film. Mais le film ne se contente pas d'une affabulation générale. Il donne tout de suite le sens concret de la situation. Cette image n'est pas perdue ou abolie par hasard. Elle est vendue. Elle tombe dans la sphère de la marchandise, pourrait-on dire. Et tel est bien le sens de l'aliénation sociale concrète. En même temps, que le diable puisse empocher cette image comme un objet est aussi l'illustration fantastique du processus réel de fétichisme de la marchandise. Dès l'instant qu'ils sont produits, Notre travail et nos actes tombent hors de nous, nous échappent, s'objectivent, tombent littéralement dans la main du diable. Ainsi, dans Peter Schlemihl, l'homme qui a perdu son ombre, de Chamisso, l'ombre est disjointe de la personne par maléfice et devient une chose pure, un vêtement qu'on peut oublier chez soi si on n'y prend pas garde, qui peut rester collé au sol s'il gèle trop fort. Schlemihl, qui a perdu la sienne, songe à s'en faire dessiner une autre par un peintre et qui le suivrait. Les légendes égyptiennes disent qu'il ne faut pas marcher trop près de l'eau, car les caïmans sont friands des ombres qui passent. Les deux affabulations sont égales, image ou ombre, c'est toujours la transparence de notre rapport à nous-mêmes et au monde qui est brisé, et la vie perd son sens. Mais Schlemihl et l'étudiant de Prague ont ceci de plus fort dans leur fable que tant d'autres pactent avec le diable qu'ils mettent l'or et l'or seul au centre de l'aliénation, c'est-à-dire la logique de la marchandise et de la valeur d'échange. Mais les deux fables se mènent ensuite de façon toute différente. Peu rigoureusement dans Schlemihl, où Chamisso ne pousse pas à fond les conséquences de la métamorphose de l'ombre en objet. Il meuble son récit d'épisodes fantastiques ou drôles, comme la poursuite sur la lande ensoleillée d'une ombre errante 100 mètres, qui est peut-être la sienne, ou lorsque le diable lui rend à l'essai pour quelques heures. Mais Schlemihl n'a pas directement à souffrir de son ombre aliénée, il ne souffre que de la réprobation sociale qui s'attache à l'absence d'ombre. Son ombre, une fois échappé, ne se retourne pas contre lui pour devenir l'instrument de la perte de l'être. Schlemihl est condamné à la solitude, mais il reste le même. La conscience ni la vie ne lui sont enlevées, seule la vie en société. D'où le compromis final, où il refuse stoïquement le second marché que lui propose le diable, de lui rendre son ombre en échange de son âme. Ainsi, il perd son ombre, mais il sauve son âme. L'étudiant de Prague suit une logique beaucoup plus serrée. Aussitôt vendu son image, c'est-à-dire vendu une part de lui-même, l'étudiant est traqué par elle dans la vie réelle jusqu'à la mort. Et ceci traduit la vérité non édulcorée du processus de l'aliénation. Rien de ce qui est aliéné de nous ne tombe pour autant dans un circuit indifférent, dans un monde extérieur envers lequel nous resterions libres, souffrant seulement dans notre avoir de chaque dépossession, mais disposant toujours de nous-mêmes dans notre sphère privée et intacte dans notre être au fond. Non, ceci est la fiction rassurante du fort intérieur, où l'âme est quitte du monde. L'aliénation va beaucoup plus loin. La part de nous qui nous échappe, nous ne lui échappons pas. L'objet, l'âme, l'ombre, le produit de notre travail devenu objet, se venge. Tout ce dont nous sommes dépossédés reste lié à nous, mais négativement, c'est-à-dire qu'il nous hante. Cette part de nous, vendue et oubliée, c'est encore nous, ou plutôt, c'en est la caricature, le fantôme, le spectre, qui nous suit, nous prolonge et se venge. On retrouve l'ambiance inquiétante de cette inversion du sujet et de l'objet, cette sorcellerie de l'altérité du même dans les expressions les plus courantes. Il le suivait comme son ombre. Ainsi de notre culte envers les morts, culte de propitation envers une part de nous définitivement aliénée, et dont, pour cela, on ne peut attendre que du mal. Or, il est une part de nous-mêmes dont, vivant, nous sommes collectivement hantés. C'est la force de travail social qui, une fois vendue, revient, par tout le cycle social de la marchandise, nous déposséder du sens du travail même. C'est la force de travail devenue, par une opération sociale bien sûre et non diabolique, l'obstacle matérialisé au fruit du travail. C'est tout ceci qui est symbolisé dans l'étudiant de Prague, par la soudaine émergence vivante et hostile de l'image, et par le long suicide, c'est le mot, qu'elle impose à celui qui l'a vendu. Ce qui est capital, ici, et qui nous est montré dramatiquement, c'est que l'homme aliéné n'est pas seulement l'homme diminué, appauvri, mais intact dans son essence. C'est un homme retourné, changé en mal et en ennemi de lui-même, dressé contre lui-même. C'est sur un autre plan le processus que Freud décrit dans le refoulement, le refoulé ressurgissant à travers l'instance refoulante même. C'est le corps du Christ en croix qui se change en femme pour obséder le moine qui a juré d'être chaste. Dans l'aliénation, ce sont les forces vives objectivées de l'être qui se changent à tout instant en lui, aux dépens de lui, et le mènent ainsi jusqu'à la mort. Schlemihl finit par rendre un sens relatif à sa vie et par mourir de sa belle mort comme un grand industriel américain solitaire dans un institut de bienfaisance qu'il a lui-même fondé du temps qu'il était riche. Il a sauvé son âme en refusant le second marché. Cette division de l'action découle nécessairement de l'ambiguïté de la pensée et la fable en perd toute sa rigueur. Dans l'étudiant de Prague, il n'y a pas de second marché. Les suites logiques du premier, l'étudiant meurt inexorablement. Ceci veut dire que, pour Chamisso, il est possible de vendre son ombre, c'est-à-dire d'être aliéné en chacune de ses conduites, et de sauver quand même son âme. L'aliénation ne mène qu'à un conflit dans l'apparence sociale, et Schlemihl peut fort bien alors le dépasser abstraitement dans la solitude. Tandis que l'étudiant de Prague développe la logique objective de l'aliénation dans toute sa rigueur, et montre qu'il n'y a pas d'issue, sinon la mort. Toute solution idéale de dépassement de l'aliénation est brisée net. L'aliénation ne peut être dépassée, elle est la structure même de la société marchande. La fin de la transcendance. L'étudiant de Prague est une illustration remarquable des processus de l'aliénation, c'est-à-dire du schème généralisé de la vie individuelle et sociale régie par la logique de la marchandise. Le pacte avec le diable est par ailleurs, depuis le haut Moyen-Âge, le mythe central d'une société engagée dans le processus historique et technique de domination de la nature, ce processus étant toujours simultanément un processus de domestication de la sexualité. L'apprenti sorcier occidental a constamment thématisé, dans les forces du mal, indexées sur le diable, l'immense culpabilité liée à l'entreprise puritaine et prométhéenne de progrès, de sublimation et de travail, de rationalité et d'efficience. C'est pourquoi ce thème médiéval de ressurgissement du refoulé, de hantise par le refoulé de la vente de son âme, le pacte reflétant l'irruption des processus de marché dans la première société bourgeoise, s'est vu ressuscité par les romantiques dès les premiers temps de l'ère industrielle. Depuis, le thème court toujours, parallèlement au miracle de la technique, derrière le mythe de la fatalité de la technique. Il imprègne aujourd'hui encore toute notre science-fiction et toute la mythologie quotidienne. Depuis le péril de la catastrophe atomique, le suicide technique de la civilisation, jusqu'au thème mille fois orchestré du décalage fatal entre le progrès technique et la morale sociale des hommes. On peut donc avancer que l'ère de la consommation étant l'aboutissement historique de tout le processus de productivité accéléré sous le signe du capital, elle est aussi l'ère de l'aliénation radicale. La logique de la marchandise s'est généralisée, régissant aujourd'hui non seulement les progrès de travail et les produits matériels, mais la culture entière, la sexualité, les relations humaines, jusqu'aux fantasmes et aux pulsions individuelles. Tout est repris par cette logique, non seulement au sens où toutes les fonctions, tous les besoins sont objectivés et manipulés en termes de profit, mais au sens plus profond où tout est spectacularisé, c'est-à-dire évoqué, provoqué, orchestré en images, en signes, en modèles consommables. Mais la question est alors, ce schème ou ce concept de l'aliénation, dans la mesure où il tourne autour de l'altérité du même, c'est-à-dire autour d'une essence de l'homme aliéné, détourné, peut-il encore jouer dans un contexte où l'individu n'est plus jamais confronté à sa propre image dédoublée ? Le mythe du pacte et de l'apprenti sorcier est encore un mythe démiurgique, celui du marché, de l'or et de la production, dont l'objectif transcendant se retourne contre les hommes eux-mêmes. La consommation, elle, n'est pas prométhéenne. Elle est hédoniste et régressive. Son procès n'est plus un procès de travail et de dépassement, c'est un procès d'absorption de signes, et d'absorption par les signes. Elle se caractérise donc, comme le dit Marcuse, par la fin de la transcendance. Dans le procès généralisé de la consommation, il n'y a plus d'âme, d'ombre, de double, d'image au sens spéculaire. Il n'y a plus de contradiction de l'être, ni de problématique de l'être et de l'apparence. Il n'y a plus qu'émission et réception de signes, et l'être individuel s'abolit dans cette combinatoire et ce calcul des signes. L'homme de la consommation n'est jamais en face de ses propres besoins, pas plus que du propre produit de son travail. Il n'est jamais non plus affronté à sa propre image. Il est immanent aux signes qu'il ordonne. Plus de transcendance, plus de finalité, plus d'objectif. Ce qui caractérise cette société, c'est l'absence de réflexion, de perspective sur elle-même. Il n'y a donc plus non plus d'instances maléfiques comme celle du diable, avec qui s'engager par un pacte faustien pour acquérir la richesse et la gloire, puisque ceci vous est donné dans une ambiance bénéfique et maternelle, la société d'abondance elle-même. Ou alors il faut supposer que c'est la société entière, société anonyme, SARL, qui a passé contrat avec le diable, lui a vendu toutes les transcendances, toute finalité au prix de l'abondance, et est hanté désormais par l'absence de fin. Dans le mode spécifique de la consommation, il n'y a plus de transcendance, même pas celle fétichiste de la marchandise, il n'y a plus qu'immanence à l'ombre des signes. De même qu'il n'y a pas écartèlement ontologique, mais rapport logique entre le signifiant et le signifié, Il n'y a plus écartèlement ontologique entre l'être et son double divin ou diabolique. Il y a calcul logique de signes et absorption dans le système de signes. Il n'y a plus de miroir ou de glace dans l'ordre moderne, où l'homme soit affronté à son image pour le meilleur ou pour le pire. Il n'y a plus que la vitrine, lieu géométrique de consommation, où l'individu ne se réfléchit plus lui-même, mais s'absorbe dans la contemplation des objets signes multipliés, s'absorbe dans l'ordre des signifiants du statut social, etc. Il ne s'y réfléchit plus. Il s'y absorbe et s'y abolit. Le sujet de la consommation, c'est l'ordre des signes. Qu'on définisse celui-ci structuralement comme l'instance d'un code ou empiriquement comme l'ambiance généralisée des objets, de toute façon, l'implication du sujet n'est plus celle d'une essence aliénée au sens philosophique et marxiste du terme, c'est-à-dire dépossédée, ressaisie par une instance aliénante, devenue étrangère à elle-même. Car il n'y a plus à proprement parler de même, de sujet même, ni donc d'altérité du même, ni donc d'aliénation au sens propre. C'est un peu comme dans le cas de l'enfant qui embrasse son image dans la glace avant d'aller se coucher. Il ne se confond pas entièrement avec elle, puisqu'il l'a déjà reconnue. Mais ce n'est pas non plus un double étranger où il se réfléchit. Il joue avec elle, entre le même et l'autre. Ainsi, du consommateur, il joue sa personnalisation d'un terme à l'autre, d'un signe à l'autre. Entre les signes, pas de contradiction, non plus qu'entre l'enfant et son image, pas d'opposition exclusive, collusion et implication ordonnée. Le consommateur se définit par un jeu de modèles et par son choix, c'est-à-dire par son implication combinatoire dans ce jeu. C'est en ce sens que la consommation est ludique, et que le ludique de la consommation s'est substitué progressivement au tragique de l'identité. D'un spectre à l'autre. Or nous n'avons pas à l'égal du mythe du pacte ou de l'apprenti sorcier qui thématisait la contradiction fatale entre l'être et son double, de mythe actuel qui thématise la coexistence pacifique sous le signe de la déclinaison paradigmatique, des termes successifs qui définissent le modèle personnel. La dualité tragique que restituent encore les situationnistes dans le concept de spectacle, de société spectaculaire et d'aliénation radicale a eu ses grands mythes, tous liés à une essence de l'homme et à la fatalité de la perdre, à l'être et à son spectre. Mais la démultiplication ludique de la personne en un spectre de signes et d'objets, de nuances et de différences, qui constitue le fondement du procès de consommation et redéfinit totalement l'individu, non comme substance aliénée, mais comme différence mouvante, ce nouveau procès qui n'est pas analysable en termes de personne et d'altérité de la personne, n'a pas trouvé de mythe équivalent qui retracerait la métaphysique de la consommation, de mythe métaphysique équivalent à celui du double et de l'aliénation pour l'ordre de production. Ceci n'est pas accidentel. Les mythes, comme la faculté de parler, de réfléchir et de transcrire, sont solidaires de la transcendance et disparaissent avec elle. Consommation de la consommation. Si la société de consommation ne produit plus de mythes, c'est qu'elle est elle-même son propre mythe. Au diable qui apportait l'or et la richesse, au prix de l'âme, s'est substitué l'abondance pure et simple. Et au pacte avec le diable, le contrat d'abondance. De même d'ailleurs que l'aspect le plus diabolique du diable n'a jamais été d'exister, mais de faire croire qu'il existe, de même l'abondance n'existe pas, mais il lui suffit de donner à croire qu'elle existe pour être un mythe efficace. La consommation est un mythe, c'est-à-dire que c'est une parole de la société contemporaine sur elle-même. C'est la façon dont notre société se parle. Et en quelque sorte, la seule réalité objective de la consommation, c'est l'idée de la consommation. C'est cette configuration réflexive et discursive indéfiniment reprise par le discours quotidien et le discours intellectuel et qui a pris force de sens commun. Notre société se pense et se parle comme société de consommation. Au moins autant qu'elle consomme, elle se consomme en tant que société de consommation, en idée. La publicité est le payant triomphal de cette idée. Ceci n'est pas une dimension supplémentaire, c'est une dimension fondamentale, car c'est celle du mythe. Si on ne faisait que consommer, accaparer, dévorer, digérer, la consommation ne serait pas un mythe, c'est-à-dire un discours plein, autoprophétique, que la société tient sur elle-même, un système d'interprétation globale, un miroir où elle jouit superlativement d'elle-même, une utopie où elle se réfléchit par anticipation. Dans ce sens, l'abondance et la consommation, encore une fois non celle des biens matériels, des produits et des services, mais l'image consommée de la consommation constitue bien notre nouvelle mythologie tribale, la morale de la modernité. Sans cette anticipation et cette potentialisation réflexive des jouissances dans la conscience collective, la consommation ne serait que ce qu'elle est, et n'aurait pas cette puissance d'intégration sociale. Elle ne serait qu'un mode de subsistance plus riche, plus plantureuse, plus différenciée que jadis, mais elle n'aurait pas plus de nom qu'elle n'en avait jusqu'à nos jours, où rien ne désignait comme valeur collective, comme mythe de référence ce qui n'était qu'un mode de survie, manger, boire, se loger, se vêtir, ou dépenses somptuaires, parures, châteaux, bijoux, des classes privilégiées. Ni manger les racines, ni donner des fêtes n'avait nom, consommer. Notre époque est la première où aussi bien les dépenses alimentaires courantes que les dépenses de prestige s'appellent tout ensemble « consommer », et ceci pour tout le monde, selon un consensus total. L'émergence historique du mythe de la consommation au XXe siècle est radicalement différente de celle du concept technique dans la réflexion ou la science économique, dont l'usage remonte bien plus avant. Cette systématisation terminologique à l'usage courant change l'histoire même. Elle est le signe d'une réalité sociale nouvelle. À proprement parler, il n'y a de consommation que depuis que le terme est entré dans les mœurs. Mystifiant et impraticable dans l'analyse, anti-concept, il signifie pourtant que s'est opérée toute une restructuration idéologique des valeurs. Que cette société se vive comme société de consommation doit être le point de départ d'une analyse objective. Quand nous disons que cette société d'abondance est à elle-même son propre mythe, nous entendons qu'elle reprend à son compte, à un niveau global, cet admirable slogan publicitaire qui pourrait lui servir d'exergue. Le corps dont vous rêvez, c'est le vôtre. Une sorte d'immense narcissisme collectif porte la société à se confondre et à s'absoudre dans l'image qu'elle se donne d'elle-même, à se convaincre d'elle-même comme la publicité finit par convaincre les gens de leur corps et de leur prestige. Bref, comme nous disions plus haut, à s'auto-prophétiser. Burstein a bien montré cet immense processus de tautologie autodémonstrative à propos des USA, où toute une société se parle sur le mode de la prophétie, mais où cette prophétie, au lieu d'avoir pour substance des idées futures ou des héros de la transcendance, a pour unique substance le reflet d'elle-même et de son immanence. La publicité est tout entière vouée à cette fonction. Le consommateur peut y lire à chaque instant, comme dans le miroir de l'Enspiegel, ce qui est et ce qu'il désire, et l'accomplir du même coup. Plus de distance ni de déchirement ontologique. La suture est immédiate. De même pour le sondage d'opinion, les études de marché et tous les actes où on fait parler et délirer la grande pitié de l'opinion publique. Ils prédisent l'événement social et politique et, tel un portrait robot, se substituent à l'événement réel qui finit par les refléter. Ainsi, ouvrez les guillemets, l'opinion publique, jadis l'expression du public, revêt de plus en plus la forme d'une image à laquelle le public conforme son expression. Cette opinion se remplit de ce qu'elle contient déjà. Le peuple se regarde dans le miroir. Fermez les guillemets. Ainsi, des célébrités, des vedettes et des héros de la consommation. Ouvrez les guillemets. Jadis, les héros représentaient un modèle. La célébrité est une tautologie. Le seul titre de gloire des célébrités est leur célébrité même, le fait d'être connu. Or, cette célébrité n'est rien de plus qu'une version de nous-mêmes magnifiée par la publicité. En l'imitant, en essayant de nous vêtir comme elle, de parler son langage, de paraître à sa ressemblance, nous ne faisons que nous imiter nous-mêmes. Copiant une tautologie, nous devenons nous-mêmes tautologie. Candidats à être ce que nous sommes, nous cherchons des modèles et nous contemplons notre propre reflet. Fermez les guillemets. La télévision, ouvrez les guillemets. Nous essayons de conformer la vie de notre foyer à la peinture des familles heureuses que nous présente la télévision, or ces familles ne sont rien d'autre qu'une amusante synthèse de toutes les nôtres. Fermez les guillemets. Comme tout grand mythe qui se respecte, celui de la consommation a son discours et son anti-discours, c'est-à-dire que le discours exalté sur l'abondance se double partout d'un contre-discours critique, morose et moralisant, sur les méfaits de la société de consommation et l'issue tragique qu'elle ne peut manquer d'avoir pour la civilisation tout entière. Ce contre-discours est lisible partout, pas seulement dans le discours intellectualiste, toujours prêt à se distancer par le mépris des valeurs primaires et des satisfactions matérielles, mais aussi dans la culture de masse elle-même. La publicité se parodie de plus en plus, intégrant sa contre-publicité dans sa technique publicitaire. France Soir, Match, la radio, la télévision, Les discours ministériels ont pour récitatif obligé le lamento sur cette société de consommation où les valeurs, les idéaux et les idéologies se perdent au profit des seules jouissances de la quotidienneté. On n'oubliera pas de sitôt la fameuse envolée de M. Chaban-Delmas disant « Il s'agit de maîtriser la société de consommation en lui apportant un supplément d'âme ». Ce réquisitoire incessant fait partie du jeu. C'est le mirage critique, l'antifable qui couronne la fable. La phrase et l'antiphrase de la consommation. Seuls les deux versants ensemble constituent le mythe. Il faut donc rendre toute sa responsabilité véritable au discours critique, à la contestation moralisante dans l'élaboration du mythe. C'est lui qui nous enferme définitivement dans la théologie mythique et prophétique de la civilisation de l'objet. C'est lui qui, bien plus fasciné encore par l'objet que le bon sens commun ou le consommateur de base, le transfigure en critique anti-objet mythique et fasciné. Les contestataires de mai n'ont pas échappé à ce piège, qui est de surréifier les objets de la consommation en leur donnant une valeur diabolique, de les dénoncer comme tels et de les ériger en instances décisives. Et le véritable travail mythique est là. D'où vient que toutes les dénonciations, tous les discours sur l'aliénation, toutes les dérisions du pop et de l'anti-art sont si facilement récupérées? C'est qu'elles sont elles-mêmes parties du mythe, qu'elles parachèvent en jouant le contre-champ dans la liturgie formelle de l'objet dont nous parlions au début. Et ceci de façon sans doute plus perverse que l'adhésion spontanée aux valeurs de consommation. En conclusion, nous dirons que ce contre-discours, n'instituant aucune distance réelle, est aussi immanent à la société de consommation que n'importe lequel de ses autres aspects. Ce discours négatif est la résidence secondaire de l'intellectuel. Comme la société du Moyen-Âge s'équilibrait sur Dieu et sur le diable, ainsi la nôtre s'équilibre sur la consommation et sur sa dénonciation. Encore autour du diable pouvaient s'organiser des hérésies, des sectes de magie noire. Notre magie à nous est blanche, plus d'hérésie possible dans l'abondance. C'est la blancheur prophylactique d'une société saturée, d'une société sans vertige et sans histoire, sans autre mythe qu'elle-même. Mais nous voici de nouveau dans le discours morose et prophétique pris au piège de l'objet et de sa plénitude apparente. Or nous savons que l'objet n'est rien, que derrière lui se noue le vide des relations humaines, le dessin en creux de l'immense mobilisation de forces productives et sociales qui viennent s'y réifier. Nous attendrons les irruptions brutales et les désagrégations soudaines qui, de façon aussi imprévisible mais certaine qu'en mai 1968, viendront briser cette messe blanche. Fin de l'ouvrage.